Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France. Émission spéciale Bayern PSG J-1 avant ce rendez-vous capital demain soir à Munich. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Alexandre, supporter du PSG. Salut Romain.
Salut Julien, salut à tous.
Tout va bien jusque-là?
Tout va bien, pour l'instant.
On verra demain soir. Notre super sub du soir, monsieur Franck Dessous, qui remplace au pied levé Saïd Hamda, à qui l'on souhaite un bon rétablissement. Salut Franck.
Salut Julien.
Et merci d'être avec nous.
Merci.
Le sommaire avec un PSG plutôt rassurant, samedi face à Toulouse, victoire 3-0, avec un milieu de terrain convaincant. João Neves, Zaïre Emery et Vitinha sont-ils prêts pour le déplacement à Munich? Un Bayern PSG où l'on attendra beaucoup de l'attaque parisienne et notamment de Bradley Barcola, meilleur buteur en championnat. L'ancien Lyonnais n'est-il pour l'instant qu'un bon joueur de Ligue 1? Et puis focus sur l'ogre munichois avec Louis du compte Média Bayern France qui nous exposera les forces, il y en a pas mal, et les faiblesses un petit peu plus rares du Bayern Munich. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs Francilien Omnisport, COP Paris, c'est parti. Bayern PSG J-1, mais avant ce grand rendez-vous, le PSG a repris la compétition vendredi après la trêve internationale. Un PSG Toulouse qui aurait pu s'avérer piégeux, mais que les Parisiens ont bien négocié. On va revoir les trois buts de cette rencontre. Il a tout de même fallu attendre la 35e pour voir João Neves réchauffer le parc sur ce coup de canon à l'entrée de la surface. Deuxième but de la saison pour le Portugais, magnifiquement servi par Hakimi. Plus grand chose après, jusqu'à la 84e minute, Beraldo pour le but du break sur cette jolie demi-volée. 2-0 puis 3-0 dans le temps additionnel avec la percée et la passe décisive astucieuse de Kolo Muani pour Vitinha. Finition parfaite là aussi pour Vitinha, comme quoi le PSG est toujours aussi efficace, messieurs, en Ligue 1. Votre avis sur cette victoire parisienne, 3-0, peut-être score un petit peu flatteur pour les Parisiens.
Ouais, score un petit peu flatteur parce que Toulouse a eu quelques occasions, mais après ça reste, désolé du terme, un match banal de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes avant un match de Ligue des Champions. Tu permets de reposer certains joueurs, Vitinha qui marque, tu prends pas de but et t'accrois ton avance au championnat, donc bonne soirée pour le Paris Saint-Germain.
Petit trou d'air quand même en seconde période. Mais l'essentiel du travail était fait. C'est aussi le moment où Luis Enrique a fait ses changements, Romain.
Ouais, pour moi, il y a deux lectures à ce match. La première lecture, plus statistique, contexte de retour de trêve avant un match important de Ligue des Champions. Il fallait gagner, il fallait ne pas blesser deux joueurs et on l'a fait sans encaisser de but, donc c'est très bien. Et après, dans le contenu, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mmh. Toujours ces problèmes d'efficacité offensive en première mi-temps et ces trous d'air en deuxième mi-temps. En Ligue des Champions, on est puni cash. En Ligue 1, on ne l'est pas.
Ouais, mais en Ligue 1, que ça soit. Ouais, c'est surtout en Ligue 1, désolé, je te coupe. En Ligue 1, on a l'habitude. Et heureusement que Toulouse n'a pas mis l'occasion où Warren Zaïre-Emery fait une erreur. Mais voilà, on va dire, entre guillemets, en Ligue 1, on a de la chance. C'est dommage pour le spectacle, pour nous supporters, pour les personnes qui vont au stade. Parce que, depuis le début de saison, on ne va pas se mentir, le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, joue qu'une mi-temps en général.
Ouais. Juste, je voudrais qu'on voit la composition. Le 11 de départ, Luis Enrique avait pas mal fait tourner plusieurs joueurs sur le banc. Skriniar, Zaïre, Désiré Doué, titulaire. Contrat rempli, c'est ce que vous disiez, messieurs, avant le match du Bayern. 3 points, pas de blessés, de la rotation.
Oui, tout à fait. Contrat rempli avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui sont plutôt illustrés. Donc, c'est la bonne nouvelle. Après, pour moi, ces matchs-là, ça sert aussi à préparer la Ligue des Champions. Et malheureusement, comme tu dis, en jouant une mi-temps sur deux à Marseille, à Angers, encore contre Toulouse, on ne prépare pas la Ligue des Champions. Et on le voit quand on joue surtout à l'extérieur ou contre des grosses équipes, on ne tient pas la distance. Et c'est ça qui est dommage.
On va passer, messieurs, au top flop de ce PSG Toulouse. Alors, avec un top qui concerne tout un secteur de jeu, on va peut-être ensuite individualiser, mais c'est le milieu de terrain. Neves, Zaïre Emery, Vitinha, tous les trois qui montent en puissance ces dernières semaines. On a l'impression d'avoir un milieu de terrain, Franck, qui est enfin au diapason, au-delà des blessures, au-delà des méfaits.
Enfin au diapason, comme tu le dis, je pense que c'est le milieu de terrain type qu'on attendait tous en ce début de saison. Vitinha, il revient bien. Avec sa blessure qu'il a eue, Warren Zaïre-Emery aussi, qui revient très très bien depuis son match contre Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Et João Neves, il est super bon dans la continuité des matchs qu'il fait depuis le début de saison. Donc je pense que c'est le milieu type du Paris Saint-Germain et c'est le milieu type alignera demain Luis Enrique.
Zaïre Emery, projection, volume de jeu, récupération. T'as la sensation de retrouver le même Warren Zaïre Emery qu'à la même époque la saison dernière.
Exactement, c'est là où il était le meilleur. C'était en phase de poule à la fin en Ligue des Champions. On se rappelle de son but décisif face à Dortmund à la toute dernière journée. Ça y est, on retrouve enfin le Warren Zaïre Emery qui nous a tant manqué, qui était emprunté, qui était inhibé. Là, ça y est, le volume, effectivement, les projections, les buts contre l'Atlético, notamment en Ligue des Champions, et puis les retours salvateurs. Comme
il a presque pas de décisive pour le TFC. L'autre joyau, c'est Joao Neves, qui, au-delà des qualités qu'on lui connaît, se met aussi à marquer, Franck, en ce moment, alors qu'il en plus a joué latéral gauche en seconde période. Mais il est bluffant, il sait tout faire, Joao Neves.
Oh, il est bluffant, il sait tout faire, c'est du Luis Enrique. Moi, je m'attendais pas, quand j'ai vu Zague sortir, je m'attendais pas à ce que Joao Neves soit arrière-gauche. J'ai été agréablement surpris.
On s'est tous demandé qu'il allait jouer arrière-gauche à ce moment-là, si Gerardo allait repasser dans l'axe, à gauche, pardon.
Mais au final, ça a été Neves, et oui, voilà, moi je sais que je suis venu en plateau plusieurs fois, j'étais pas forcément hypé par Neves, donc du coup je m'en excuse, mais c'est vrai que les
11... peux, franchement,
ouais, je m'en excuse
depuis le début,
ouais, et du coup, mais je connaissais pas en fait, donc j'avais mis un doute, mais là depuis, il a fait quoi, une quinzaine de matchs, on va pas se mentir, je pense qu'il est indispensable au milieu de terrain du Paris Saint-Germain.
C'est le joueur Luis Enrique, alors on utilise beaucoup cette expression maintenant, Luis Enrique compatible par excellence, Joao Neves.
Ouais, un petit joueur technique, très bon dans les petits espaces, qui sait frapper de loin, qui sait marquer, qui sait faire jouer les autres. Donc ouais, c'est Luis Enrique compatible. Après,
et qui est très bon physiquement.
Ouais,
il met beaucoup de coups,
un impact physique.
1m74, mais il faut le bouger.
Ouais, c'est clair. Mais après, dans un milieu à 3 en Ligue des Champions contre des grosses équipes...
Alors, voilà, on y vient. Est-ce que ce milieu-là, avec des joueurs revenus en forme physiquement, qui ont passé un petit peu ce cap, certains, de la crise de croissance, est-ce que ce milieu-là est prêt pour la bataille demain à Munich, Kimmich, Goretzka, rien que ça en face?
Moi je pense que oui, hein. Normalement il devrait pas avoir de soucis, on vient de le dire, il y a le temps que Joao Neves, donc il mettra des coups. Ouais, Warren Zaïre Emery dans la tenue de balle, il sera faire les allers-retours entre les deux
surfaces. C'est le même milieu qu'avait joué à Arsenal, qui avait pris l'eau à l'Emirates.
Ouais, mais bon, après c'est dans la continuité que t'installes ton milieu de terrain, donc voilà. Et après Vitinha, j'ose espérer que voilà, il est dans d'une bonne lignée, donc il fera les bonnes passes, son beau moment. Et demain, je vois pas un autre milieu que ces trois joueurs là.
C'est un énorme test demain pour ces trois là.
Oui, c'est clair. Alors c'est le meilleur milieu possible. C'est les trois les meilleurs à leur poste. Pas de souci. Après très monoprofil quand même. Hein. C'est des petits joueurs techniques, très peu d'impact physique.
Et jeunes. 21 ans de moyenne âge. Sinon,
voilà, pas trop de grande taille, pas trop d'impact. Donc voilà, c'est un peu limité. Mais ça, pour moi, c'est une erreur de conception de l'effectif. À Luis Enrique et à Campos en début de saison. Voilà, maintenant on fait avec ce qu'on a, on fait avec ces trois-là, mais je leur prédis pas un super match demain. On l'a vu à Arsenal,
il va y avoir du boulot.
Avec un milieu qui est peut-être un poil moins bon. Bon, Kimmich, Goretzka, ils sont deux. Après avoir, peut-être que Louis va nous en dire plus en seconde partie d'émission, l'équilibre de cette équipe du Bayern. Mais Kimmich, Goretzka, c'est solide. Vraiment solide. Ouais.
On va passer au flop de ce PSG Toulouse. Désiré Doué, qui était titulaire. Alors, un poste enfin dans un rôle de milieu offensif qui lui correspond mieux que celui d'ailier, d'attaquant. Et on l'a pas beaucoup vu, pas à son avantage. Il n'a pas saisi sa chance vendredi.
Ah, c'est dommage. C'était une chance pour lui avant un match de Ligue des Champions de se montrer. Malheureusement, depuis 3 mois, c'est pas ça. Je pense qu'il paye. Le prix de son transfert, et à chaque fois qu'il a du temps de jeu ou qu'il est titulaire pour le peu de fois, moi je remarque qu'en fait il joue avec la pression, il fait des choses qu'il sait pas forcément faire, donc et ça l'inhibe en fait.
C'est un garçon qui arrive pas pour l'instant à se fondre dans le collectif, ce collectif là Désiré Doué.
Ouais, c'est clair. Ça fait 3 mois qu'il joue un petit peu, des bouts de match, parfois titulaire. Je sais toujours pas le poste où il est le meilleur.
Mais c'est un avantage et un inconvénient.
Il a joué un peu à tous les postes, numéro 9, milieu relayeur, milieu offensif.
Pour moi, il fait des choses qu'il ne sait pas faire. Ça me fait penser à un certain Ekitike, qui lui aussi est arrivé avec plutôt un gros transfert à son échelle, et qui a toujours voulu un peu copier les autres et pas avoir sa personnalité propre. Et du coup, se noyer tout simplement.
Alors, on va quand même rappeler à toute fin utile que Désiré Doué n'a que 19 ans.
Ouais, c'est fait.
C'est un joueur très très jeune dans l'effectif. Il a forcément une grosse marge de progression. C'est ce que soulignait Luis Enrique jeudi dernier en conférence de presse. On l'écoute.
Quand on parle de Désiré Doué, il faut surtout rappeler qu'il n'a que 19 ans. Tout le monde aimerait que cela aille plus vite, qu'il puisse déjà devenir un joueur important de l'effectif. C'est évident que Désiré aimerait avoir plus de temps de jeu. Mais je pense que c'est un joueur intéressant, un joueur pour le futur, qui fait déjà partie du présent. Mais avant tout, un joueur pour le futur.
C'est un joueur pour l'avenir, Désiré Doué, dont on attend peut-être un petit peu trop, comme le disait Romain, notamment au vu de son transfert et puis de ce côté futur prodige.
Moi, comme tu l'as dit juste avant, son âge aussi. Après, c'est sa première année au Paris Saint-Germain. On sait que c'est un club à pression. Donc là, nous, on le critique parce que voilà, on est exigeant. On va peut-être attendre fin de saison. Et si l'année prochaine, il n'y a pas un prêt ou autre et qu'il reste au Paris Saint-Germain, on attendra beaucoup plus de lui.
Tu citais Hugo Ekitike, on peut dans la même tranche d'âge, on peut aussi parler de Barcola qui a eu des débuts, six premiers mois compliqués avant de s'imposer.
Oui, c'est vrai. Alors Barcola, il y a quelques petites références quand même à Lyon, il était assez impactant.
À Rennes aussi, il était bon.
À Rennes, ouais, peut-être un poil moins, mais là où je ne comprends pas trop Luis Enrique, c'est que c'est un joueur d'avenir, c'est vrai. Un joueur de présent beaucoup moins, et pourtant il le met titulaire contre Arsenal en Ligue des Champions. Donc, bon, certes,
c'était un
cadre extra-sportif un peu différent avec Dembélé qui était sanctionné, mais bon, il le met peut-être pas dans les meilleures conditions non plus. Quoi.
Si je résume, c'est un problème de jeunesse plus que de casting pour l'instant, Désiré Doué, c'est ça l'analyse.
Jeunesse, il se met un peu trop la pression. On va attendre fin de saison, on va lui laisser le temps de progresser, et on fera le point fin de saison.
Ouais.
Romain ?
Ouais, complètement. Il faut voir en fin de saison s'il est toujours un peu dans cet état-là. Ouais, faudra peut-être songer à lui faire acquérir de l'expérience ailleurs.
On va partir en pub, messieurs. On va se retrouver dans quelques instants pour rentrer dans le vif du sujet. Bayern PSG, les clés du match côté parisien. On va parler, sans surprise, de gardien et d'efficacité offensive. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Romain Alexandre et Franck Dossou, supporters du PSG. Messieurs, on y est presque. Bayern, PSG, J-1, cinquième journée de Ligue des Champions. Le PSG qui a mis parcours est en grand danger dans cette phase de poule unique. Le PSG est actuellement, on va le voir, 25e au classement. On rappelle que ce sont les 24 premiers qui se qualifient pour la phase suivante. Le PSG est donc virtuellement éliminé. Il reste 4 matchs à jouer en comptant ce Bayern-PSG. Il y a urgence, ça c'est clair, Romain, Franck. Est-ce que c'est victoire obligatoire, défaite interdite demain soir à Munich ?
Non, faut pas exagérer non plus. Alors certes, on est dans une situation assez compliquée. 4 points en 4 matchs, dont 3 matchs à domicile contre des adversaires abordables. Il reste encore quand même 4 matchs, on a mis parcours, dont un qui est plutôt abordable face à Salzbourg dans 2 semaines. Il y a urgence, on n'est pas bon, il y a un blocage en Ligue des Champions, mais il ne faut surtout pas paniquer, ça serait vraiment la pire des choses.
Il y a encore un joker parce que derrière il reste 3 matchs.
Je te sens bien un optimiste. Hein.
Là, je dis pas que je suis optimiste, je dis juste qu'il ne faut pas avoir la pression,
perdre des points. C'est juste de savoir, parce qu'effectivement, aller gagner demain au Bayern, ça serait un immense exploit.
Il ne faut pas perdre demain. Il
ne
faut pas perdre demain, défaite interdite, 1 ou 3 points demain. Voilà.
Ah, mais je suis d'accord, il faut construire le parcours. Ce n'est pas victoire demain impérative. Voilà,
on a vu la demain, si... le calendrier, tu le disais, Salzbourg dans 2 semaines, Manchester City et Stuttgart au mois de janvier.
Voilà.
Il faudra prendre 6 points vraisemblablement sur ces 4 matchs.
Ouais, on va faire des calculs d'apothicaire, mais demain, moi je pense que match nul ou victoire du Paris Saint-Germain, c'est obligé. Tu commences la première de tes 4 finales. Si tu fais un résultat négatif, je suis désolé, ça sera un potentiel aveu d'échec dans le projet Ligue des Champions.
Oui, bien sûr, Paris Saint-Germain. Mais avec nos forces en présence, tu penses vraiment qu'on peut aller accrocher légitimement une victoire demain? Moi, j'y crois.
En 2021.
On va en parler. Si le PSG va construire
le parcours,
un résultat demain, voilà. Il va falloir régler 2 problèmes, messieurs. Depuis le début de cette campagne en Ligue des Champions, 2 problèmes persistants, celui du gardien de but, notamment Safonov ou Donnarumma, le Russe. Était titulaire face à Toulouse. La hiérarchie au poste de gardien de but a-t-elle évolué? On écoute Luis Enrique.
Peut-être que oui, peut-être que non.
Vous avez vu, j'ai bien progressé en français. Mais c'est l'accent de Versailles, pas celui de Saint-Germain.
L'accent de Versailles. Il s'en amuse, Luis Enrique. On perçoit quand même depuis quelques semaines qu'il y a des éléments de réflexion, une hiérarchie qui a évolué dans l'esprit.
Il y a une hiérarchie qui a évolué, comme tu l'as dit. Mais est-ce que c'est le bon moment demain pour mettre Safonov? Je ne sais pas s'il avait fallu le mettre. Ça aurait été peut-être après l'erreur de Donnarumma face à Arsenal. Demain, je suis team Donnarumma, même s'il ne remplit pas ses attentes en Ligue des Champions. Mais je pars avec Donnarumma demain.
Alors, sans parler d'un éventuel déclassement de Donnarumma, on va parler de Safonov, ce qu'il a pu montrer sur les 5 matchs qu'il a disputés. Est-ce qu'il mérite de jouer, eu égard à ce qu'il a pu afficher dans le jeu et sur ses arrêts?
Oui, pour moi, oui, il mérite de jouer parce que tu as un gardien titulaire, Donnarumma, qui ne donne pas satisfaction, surtout en Ligue des Champions, ce pourquoi il a été recruté. Et tu as un autre gardien, Safonov, qui a vraisemblablement les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais qui a l'air quand même plus solide. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas lui donner sa chance?
Sur les deux aspects qui sont chers, Romain, je poursuivre avec toi, Luis Enrique. Le jeu au pied et alors un petit peu moins le domaine aérien. Est-ce qu'il est meilleur vraiment que Donnarumma?
Non, de ta perception. Il est pas meilleur, mais en tout cas, il est pas moins bon.
Ouais.
Donc pour moi, on peut lui laisser sa chance et il a l'air plus fiable quand même.
Et il est plus dans les airs. Compatible.
Et pas demain, c'est trop risqué.
Non, bien sûr, pas demain. Ça c'est sûr. Ça serait vraiment le coup de cramer ces deux gardiens à la fois. Ouais. Mais pour moi, il faut l'installer dans la durée et ça aurait dû être le cas avant déjà.
Alors on va réfléchir justement et parfaite passe décisive sur la symbolique, sur finalement risque-opportunité d'un changement demain. C'est pas le bon timing pour lancer Safonov, Franck, demain dans un très grand match de Ligue des Champions.
Non, parce que s'il se déchire, désolé du terme, on va perdre les deux gardiens.
Bien sûr.
Parce que
tu perds les deux,
tu auras mis Donnarumma sur le banc et Safonov, il aura fait une potentielle cagade en prime time. Donc voilà. Après,
à l'extérieur, il sera sous pression.
Voilà.
Harry Kane a dit en conférence de presse que les joueurs allaient particulièrement viser le gardien, donc que ce soit l'un ou l'autre.
Allaient presser le gardien.
Voilà, exactement.
Il a bien fait ses devoirs, Harry Kane.
Il a bien fait ses devoirs et au moins le ton est donné. Donc ils ont intérêt à bosser le jeu au pied à l'entraînement ce soir.
Après, moi,
ça ne serait pas un cadeau en tout cas.
Comment on fait est-ce que ce n'est pas une erreur de se retrouver dans cette situation-là à l'aube d'un match, le PSG dos au mur face à son plus grand adversaire depuis le début de saison, avec ce choix-là, ce dilemme-là à résoudre?
Il y a un problème de timing. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le bon moment. S'il avait fallu mettre Safonov, c'était après l'erreur, une énième erreur de Donnarumma face à Arsenal. Après, là, je sais pas, depuis quelques temps, il y a une hype Safonov. Moi, personnellement, je connais pas. Et après, il me rassure pas plus
matchs,
que ça.
Vrai,
mais après, est-ce qu'il est si meilleur que ça, que Donnarumma au pied? Je sais pas. Ouais, pour. Je sais pas.
Les images quasiment en live, c'était il y a quelques minutes de l'entraînement, messieurs, à l'Allianz Arena, avec notamment Presnel Kimpembe, avec Gonçalo Ramos, qui sont dans le groupe. Juste pour revenir sur le concept de concurrence, de timing, la concurrence au PSG chez les gardiens, c'est toute une histoire et qui n'a jamais vraiment été, très profitable, Romain.
Bah exactement. On n'a jamais su, à part peut-être un an avec Keylor Navas, qui était vraiment de loin le meilleur gardien qui nous a sauvés maintes fois, on n'a jamais su tirer profit des performances de nos gardiens. Ça remonte déjà à longtemps, quand il y avait Areola, Trapp, on savait pas trop, Buffon qui arrivait en même temps. En fait, on ne sait pas faire. Et Donnarumma, on a l'impression que le débat il est pour le match de demain, mais Donnarumma, ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'il fait des erreurs en Ligue des Champions. Pour moi, Donnarumma, ça fait longtemps qu'il aurait dû ne pas être titulaire. Ça fait longtemps qu'on aurait dû investir sur un autre gardien que Donnarumma.
Là, c'est désolé, je te coupe, c'est une année charnière pour lui. Parce que là, on va arriver à sa quatrième année en 2025. S'il n'y a pas de prolongation l'année prochaine, faut le vendre.
Tu l'as vu progresser.
Non, il faut le vendre. Alors, faut le vendre. Il n'y a pas. J'espère.
Juste, vous m'avez donné votre avis à vous. Ouais. Demain, quand on va découvrir la feuille de match, qui sera sur la feuille de match au poste de gardien de but? Quel sera le choix de Luis Enrique?
Pour moi, Donnarumma. Pour moi, c'est Donnarumma.
Mais pas pour toi, Luis Enrique. Ce qu'il fera demain. Donc c'est du bluff pour l'instant.
Du bluff. S'il est dans sa continuité avec ce qu'il a dit en conférence de presse, il va tenter Safonov. Voilà.
Comme contre l'Atlético Madrid où c'était Safonov juste avant, il a remis Donnarumma. Bon.
Là où on a un petit peu plus de certitude, alors sur l'identité des joueurs qui vont composer demain l'attaque, sur cette attaque justement on connaît deux des trois postes, mais là il va falloir aussi passer à un autre cap en termes d'efficacité, et dans ce registre on pense forcément à Bradley Barcola. Luis Enrique en a parlé en conférence de presse il y a quelques minutes, aussi efficace en Ligue 1 Barcola depuis son arrivée au PSG, 14 buts en 37 matchs, un but quasiment tous les deux matchs, qu'il est, on va voir les statistiques, inefficace en Ligue des Champions. Un seul but en 14 matchs de Ligue des Champions, Barcola. Il n'a que 22 ans. Mais n'est-il pour l'instant, messieurs, seulement qu'un bon joueur de Ligue 1? C'est un petit peu provocateur, mais on l'assume.
Pour moi, c'est pour l'instant, il n'a pas encore passé le cap de la phase de poule de Ligue des Champions. Alors, la phase finale, on n'en parle même pas pour l'instant. Mais c'est un jeune joueur qui n'a pas beaucoup de références. En Ligue des Champions, c'est que sa deuxième saison, il ne faut pas l'oublier non plus. Il a marqué un super but contre la Real Sociedad en 8e retour l'an dernier, qui avait été décisif. Mais depuis, effectivement, il peine. Et dans l'aspect décisif et même dans l'aspect création, on le voit beaucoup moins en Ligue des Champions.
Il a marqué un but contre l'Italie avec l'équipe de France dans un match d'envergure internationale. Est-ce qu'il doit passer ce cap, Bradley Barcola?
Il va passer ce cap.
Meilleur buteur de Ligue 1.
Il y a un meilleur buteur de Ligue 1. Après, peut-être que la Ligue des Champions, pour le moment, c'est un plafond de verre pour lui. Après, il a attendu. Il fait un bon début de saison. Les adversaires, ils travaillent leur compo. Donc, par exemple, demain, je pense qu'il va mettre deux joueurs sur Barcola parce que
le dilemme entre.
Il a attendu. Après, c'est vrai qu'on attend. On aimerait bien qu'il refasse.
Ça passe par un grand Barcola demain soir, une performance à l'Allianz Arena.
Pas que lui, les 10 autres joueurs. C'est toute l'équipe.
Mais en termes d'efficacité, si on fait la comparaison, on n'a pas poussé le débat jusqu'à Ousmane Dembélé, mais la marge de progression.
Demain, dès que tu as une occasion, il faut la mettre au fond. Il faut être clinique, pas vendanger. Ouais. Voilà, faut être clinique.
Barcola qui sera titulaire comme Ousmane Dembélé, quid du troisième en attaque. Alors on a Asensio, on a Kanginli, logiquement, ça c'est la logique de Luis Enrique. On a Randal Kolo Muani qui est là sans être là, et puis on a Gonçalo Ramos, on l'a vu, qui est de retour dans le groupe. Faites vos jeux.
Tout dépend en fait ce que veut faire Luis Enrique. S'ils veulent avoir le ballon au Bayern, je tente Asensio. S'ils veulent jouer en transition rapide en profondeur, je mets Kolo Muani.
Romain ?
Moi je suis plutôt d'avis de Kolo Muani aussi, parce que le Bayern va tenir le ballon, c'est leur marque de fabrique. Et nous, avec un, on va profiter peut-être du milieu à deux du Bayern pour contrer. Et effectivement, là où il est meilleur, Kolo Muani, c'est en transition, il y a de l'espace.
Vous connaissez bien l'Allemagne. C'est une équipe allemande. Face au Bayern, ouais, exactement. Il avait à chaque fois marqué contre.
Ouais, c'est une équipe allemande et on a du mal. On a un mal fou à marquer des buts. Et en fait, on joue sans neuf. Donc voilà, pour une fois, on peut avoir un neuf.
Tu fais jouer au poste de numéro 9.
Bah oui, je fais jouer au numéro 9, pas à droite, numéro 9.
Tu as l'option aussi, possiblement, ouais, là, il l'a déjà fait en Ligue des Champions, de recentrer Ousmane Dembélé et de mettre Randal Kolo Muani à droite.
Après, il va peut-être tenter quelque chose. Il tente toujours des choses. Extérieur, donc. Mais
c'est Kolo Muani, pas là où il est le meilleur, c'est dommage, je trouve.
Tu le vois plus au poste de numéro 9 dans un rôle axial, Randal Kolo Muani. Est-ce qu'il mérite plus, au-delà de toutes ces considérations tactiques très intéressantes, Randal Kolo Muani, bonne rentrée face à Toulouse, ce statut en équipe de France?
Après, moi, j'aime bien le joueur, je comprends pas pourquoi il est pas plus tenté que ça. Donc demain, s'il doit être titulaire, je serais pas choqué. Mmh. J'espère qu'il va faire un gros match.
Juste un petit mot sur le retour de Gonçalo Ramos, 3 mois après sa blessure à la cheville, retour très attendu au vu du manque d'efficacité qu'on vient d'évoquer en Ligue des Champions. Quel rôle, selon vous, demain soir à Munich ?
Bon, il va remplir les gourdes. Hein, je pense, il était prévu pour revenir contre Toulouse, puis on a dit finalement ce sera mi-décembre, et puis là il est sur la feuille de match. Je pense que c'est une partie de bluff aussi. Pour moi, il ne peut pas, après une aussi grave blessure que ça, revenir direct dans un match à ultra haute intensité comme ça. Il ne faut pas le péter non plus.
Il a dit qu'il terminait son processus de reprise. Voilà.
Tout dépend le scénario du match. S'il y a 10 minutes de la fin, tu perds et que tu dois mettre toutes tes gâchettes offensives, s'il doit rentrer, il rentrera.
Tout dépend du scénario du match, y compris pour la fin janvier, pour les matchs ultra décisifs aussi. Pour moi,
ça dépend du scénario, comme le disait Julien tout à l'heure en off, c'est peut-être du bluff.
Quelles conséquences à plus long terme le retour de Gonçalo Ramos ?
Conséquences, on aura enfin un 9. Et donc, qui dit.
Si Luis Enrique le fait jouer, parce qu'il il a à peu près le même profil que Kolo Muani. Ce sont des bons joueurs défensifs.
Ouais, mais t'as besoin d'un 9. Il est bon devant le but. On l'a vu l'année dernière, le peu de temps qu'il a eu. Je crois qu'il a mis une quinzaine de buts. Et là, cette année, ça doit être lui. C'est lui le numéro 9 titulaire.
Ouais, bien sûr.
Donc, Luis Enrique devra le mettre.
D'autant que Nasser Al-Relaifi, chez nos confrères d'RMC, il y a quelques jours, a expliqué qu'il n'y aurait a priori pas de recrues lors du prochain mercato d'hiver. On va voir le résultat du sondage. Vous a demandé sur le hashtag Cop Paris qui devait accompagner Dembélé et Barcola demain soir en attaque. Eh bien, messieurs, avantage Kolo Muani, 38% des votes, 39% même devant Gonçalo Ramos. Comme quoi, il y a un petit regain de popularité en ce moment pour Randal Kolo Muani. Tout arrive. Nouvelle coupure pub et on se retrouve dans quelques instants pour décrypter l'adversaire du PSG demain soir, l'ogre bavarois, le Bayern Munich. À tout de suite. De retour dans Cop Paris, mes deux chroniqueurs du soir, Franck Dessous et Romain Alexandre, sont toujours là. Deux supporters du PSG, messieurs, peut-être un petit peu inquiets.
Désireux
de savoir à quelle sauce le PSG va être mangé demain soir. Pour tout savoir sur l'adversaire du PSG, on accueille tout de suite un spécialiste du Bayern, Louis, co-gestionnaire du compte Média Bayern France sur X, un peu plus de 10 000 abonnés. Salut Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Cop Paris. Tu vas essayer déjà de ne pas trop nous effrayer pour demain soir. raconte-nous déjà, tu as 21 ans, tu habites quand ? Comment on devient supporter du Bayern Munich ?
Alors moi, ça a commencé en 2014, à la Coupe du Monde 2014, donc juste avant mon entrée au collège. Je ne suivais pas vraiment le foot avant et j'ai été impressionné par la performance, par exemple, de Robben contre l'Espagne avec son rush incroyable, même avec l'Allemagne de Neuer, de Müller, de Toni Kroos. Ouais. Donc c'est à partir de là. Et puis moi, mon joueur préféré à ce moment-là, c'était devenu Arjen Robben. Et donc j'avais juste choisi de supporter le Bayern parce que c'était là-bas qu'il jouait.
Sacrée génération, effectivement, qui venait d'ailleurs de remporter la Ligue des Champions une saison avant, avec notamment Franck Ribéry. On va évoquer, Louis, ce Bayern édition 2024-2025. Leader, large leader, un peu comme le PSG de Bundesliga, mais un petit peu moins souverain en Ligue des Champions, 17e au classement de cette LDC. 2 victoires et 2 défaites, notamment une défaite cuisante face au Barça. Est-ce qu'il y a un petit peu comme le PSG, un Bayern aux deux visages cette saison ?
Alors je dirais pas ça, personnellement. Je sais que le match face au Barça a surtout marqué les esprits, parce que pour le coup je pense que sur l'ensemble du match on était vraiment moins bon que l'équipe d'Hansi Flick. Mais le match face à Aston Villa, il n'y avait aucun motif d'inquiétude, on en a dominé pendant les 3/4 du match. Aston Villa s'est à peine procuré une occasion et juste, il manquait juste de la mettre au fond, et Emiliano Martinez a sorti un nombre d'arrêts assez incroyable. Donc il n'y a pas vraiment de grosse inquiétude au sein du Bayern. Par exemple avec la victoire 9-2 du Dynamo Zagreb et puis face au Dynamo Zagreb et la victoire 1-0 au Benfica, où Benfica n'a pas existé du match du tout. Et en Bundesliga, pour le coup, alors là, c'est presque parfait.
Vous marchez quasiment sur tout le monde avec plus de 3 buts en moyenne par match. Je voudrais qu'on parle un petit peu du style du Bayern, Louis, cette année, qu'a changé l'entraîneur. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des entraîneurs allemands sur le banc du Bayern. Vincent Kompany, désormais, ça ressemble à quoi ce Bayern-là ?
Alors c'est un Bayern qui, si je devais le résumer grossièrement, c'est un peu un mélange de celui d'Hansi Flick, donc très agressif. On presse vraiment haut, on prend beaucoup de risques en défense, quitte à aller à faire du 2 contre 2 à la perte du ballon. Mais en même temps, avec le ballon, ça ressemble beaucoup à celui au football de Guardiola. Lothar Matthäus qui avait dit que le Bayern de Kompany, c'est le meilleur Bayern et le Bayern le plus stable depuis celui de Guardiola, ce qui est un super compliment. Donc avec ballon, on retrouve vraiment des principes guardioliens, avec par exemple Alphonso Davies et Guerrero qui rentrent au cœur du jeu en tant que latéraux et qui vraiment participent, avec Kimmich qui redescend bas un peu comme un quarterback à la Toni Kroos. Tout ça, c'est des principes guardioliens, mais en même temps avec une philosophie qui nous a manqué sur les dernières années, avec Nagelsmann et surtout avec Thomas Tuchel. C'est la philosophie de vouloir vraiment, pour dire grossièrement, abattre l'adversaire.
Enfoncer les matchs, ce que ne fait pas toujours le Paris Saint-Germain. Je vais revenir en plateau. Messieurs, Louis nous expose effectivement un cadre intéressant. Et Luis Enrique disait, il n'y a pas une équipe peut-être plus que le Bayern qui ressemble à mon PSG.
Oui, parce que comme il l'a dit, ils sont forts au pressing, contre-pressing. Ils tiennent bien le ballon. Mais là, avec ce qu'a dit Louis, en fait, moi j'ai une petite question. En fait, je voudrais savoir c'est quoi les points faibles en fait, du Bayern.
Est-ce qu'il y en a, Louis, des points faibles au Bayern Munich cette année ?
Alors, il y en a beaucoup moins que l'année dernière, ça c'est sûr. Collectivement, je dirais qu'il y a très peu, on a très peu de failles dans notre équipe. Mais individuellement, on a des moins. Par exemple, Manuel Neuer, ça peut être un peu surprenant de dire ça vu le nom que c'est, mais cette année, c'est un des pires gardiens statistiquement en termes de pourcentage d'arrêt.
Est-ce que c'est un peu votre Donnarumma en Ligue des Champions, Manuel? Non, mais tu parles de stats. J'ai vu une stat circuler sur les réseaux sociaux sur le rapport entre sollicitations et arrêts effectués. Et les deux gardiens, je crois, les plus faibles sont Donnarumma et Neuer cette saison en Ligue des Champions.
Ouais, c'est ça. Je dirais pas que c'est comme Donnarumma, parce que pour le coup, je regarde presque tous les matchs de Paris et Donnarumma, c'est à chaque but, on se dit qu'il peut faire mieux et qu'il doit faire mieux. Neuer, il y a moins cette impression où on se dit, ok, là, il a vraiment fait une boulette. Mais en même temps, c'est plus un hasard si depuis le début de saison, à chaque match, c'est une frappe cadrée, un but. Ça peut pas être que les attaquants en face qui sont hyper précis. Mais c'est un peu notre Donnarumma, oui, cette saison. Ouais. C'est assez inquiétant.
Bon, ok, Neuer comme petit maillon faible. Romain, tu t'attends à quoi, toi, demain, sur l'opposition tactique face à ce Bayern-là ?
Moi, je m'attends, comme l'a dit Louis, à un pressing de tous les instants. Et c'est bien ça dont j'ai le plus peur, parce qu'on n'est pas prêt à suivre ce pressing. Arsenal nous avait étouffé, on n'avait pas existé en première mi-temps. Là, j'ai vraiment peur de ça. Et puis, ils ont des flèches incroyables sur les côtés. Et une collection d'ailiers, aussi bien titulaires que remplaçants, qui sont exceptionnels. Donc, on risque de souffrir sur les côtés, là où c'est notre force. Et donc, j'ai peur qu'ils gagnent un peu ce rapport de force sur les côtés, qui ferait reculer Nuno Mendes et Hakimi, et ce qui nous ferait très peu exister.
Contre Arsenal, il n'y avait pas Dembélé.
Ouais, oui,
Oui, mais bon, il est imprévisible. Hein.
C'est sûr.
On va revenir sur la ligne offensive. Alors moi, que je trouve effrayante, Louis, du Bayern Munich cette saison. On va avoir les images du triplé d'Harry Kane ce week-end en Bundesliga contre Augsbourg. Deux pénalties. Alors le troisième but, on va laisser défiler les images, qui est magnifique, le contrôle de la part d'Harry Kane. Harry Kane, c'est 20 buts en 17 matchs. Et puis, il y a un autre garçon qui marque de plus en plus son empreinte au Bayern, c'est Moussiala. C'est un petit peu le patron en ce moment, Moussiala.
Pour moi, c'est le meilleur joueur du Bayern depuis son retour de blessure. Il marche sur l'eau comme il l'a rarement fait au Bayern. Il a marqué son premier triplé. Et puis même, je trouve que l'utilisation que Compagnie en fait de lui, c'est magique, parce qu'il utilise les qualités de passe de Musiala et les qualités de dribble. Parce que des fois, Musiala descend très bas dans le jeu pour le construire, pour aider avec Kimmich à construire le jeu. Mais en même temps, s'il y a Olise ou Coman prêt à centrer, il va aller dans la surface. Et comme un renard des surfaces, il est prêt à marquer tout le temps.
Un petit mot, Louis, sur nos deux Français, Michael Olise, bon, que l'on apprend aussi, que l'on découvre de plus en plus. Et puis Kingsley Coman, que l'on pensait ne plus revoir avec le maillot du Bayern. Les deux sont en forme également.
Oui, alors Olise, c'est toujours bon, c'est peut-être pas aussi flamboyant que son premier mois. Coman, alors il y a les stats, il marque quelques buts, mais je trouve ça quand même assez frustrant dans le jeu, les centres au troisième poteau, il y a des fois des prises de décision qui restent à désirer, mais en même temps, c'est ce que je dis avec Coman, il y a des matchs où il va passer à côté, où il va être frustrant, mais c'est un des mecs depuis qu'il est arrivé au club en 2015 qui répond toujours présent dans les gros matchs. Enfin, je pense que Paris en a bien.
Il aime le PSG, ouais, c'est ça. Chaque fois, il est décisif contre nous.
On a des super souvenirs de Kingsley Coman, buteur en finale de Ligue des Champions il y a 4 ans. Messieurs, cette ligne, juste, je reviens en plateau, elle est effrayante. Gnabry, Olise, Coman, Moussiala, Kane, Müller. Est-ce qu'il y en a un qui nous fait plus peur que les autres?
Moi, Moussiala, je pense. Parce qu'en fait, il va jouer entre les lignes, il est super bon techniquement et tout. Et dans la dernière passe, il est excellent. Donc, moi, je le mettrais devant Kane.
Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce qu'effectivement, il a un gros volume, il est un peu imprévisible. Et puis, peut-être l'une des grosses satisfactions de la saison, c'est quand même pas de show. Donc là, il aura un client demain avec Harry Kane. Mais on peut peut-être avoir un peu plus de motifs d'espoir dans ce duel-là que Moussiala qui peut être partout et nulle part à la fois. Quoi.
Louis, juste un petit mot sur les absences au milieu de terrain. Il y en a deux quand même importantes, Pavlovic et Palinha. Ça a quel impact, ça, pour le Bayern, sachant que c'est un domaine, un secteur de jeu où le Bayern est en règle générale aussi très dominant?
Ouais, alors ça a un énorme impact, parce qu'au début de saison, notre milieu, c'était Kimmich-Pavlovic. Pavlovic qui est un super bijou, considéré comme le nouveau Kroos en Allemagne. Il a eu une blessure à l'épaule, dont il revient petit à petit, et il a été remplacé par Palinha, qu'on a payé cher. Mais lui aussi s'est blessé avec le Portugal. Donc maintenant, on a Goretzka à côté de Kimmich. Ouais. Et Goretzka, c'est l'inconnu. Alors certes, il a fait un super match contre Augsbourg vendredi dernier, mais en même temps, au début de saison, il n'avait pas les faveurs de Compagnie. Ouais. Il avait commencé la saison en tribune. Donc pour moi, c'est le plus gros point d'interrogation du Bayern demain. C'est quel Goretzka on aura? Celui qui trottine ou alors celui qui donne tout?
Franck Romain, on va terminer avec des souvenirs. PSG-Bayern, c'est aussi une vraie rivalité en Ligue des Champions. Ce sera le 14e match de l'histoire demain. PSG-Bayern, Bayern-PSG, ça vous inspire quoi? Comme ça, spontanément.
Bah, le but de Weah.
Ah ouais, tu reviens très loin.
Ouais, mon père est en 94-95, il n'est pas titulaire, je crois. Il met un top but. Et souvenir plus récent, la victoire du PSG, le 3-2, avec le but de
Marquinhos.
Ouais, dans la neige, but de Marquinhos et doublé de Mbappé. Voilà.
Romain. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la finale de la Ligue des Champions.
Il y a des très bons et des très mauvais souvenirs.
Exactement, parce que c'est vraiment l'occasion énorme d'enfin gagner ce trophée qu'on attend tant, et puis plus récemment peut-être la victoire 3-0, c'était antérieur même en 2017, qui avait viré Carlo Ancelotti. Oui, c'est assez drôle, PSG avait réussi à virer Carlo Ancelotti.
Et qui a longtemps été la dernière défaite en phase de poule du Bayern Munich, je crois, qui n'a pas perdu pendant très longtemps. Louis, ton meilleur souvenir face au Paris Saint-Germain?
Je ne vais pas être original, je vais dire 2020, parce que
forcément.
C'était peut-être mon plus beau souvenir de foot en tant que supporter. Avec un Thiago Alcantara qui était incroyable. Ouais. Enfin bref, une génération où on avait fait 15 matchs, 15 victoires, enfin autant de matchs que de victoires en Ligue des Champions, c'était magique.
Petit pronostic pour terminer demain. Louis, est-ce que ce Bayern est trop fort pour le PSG?
Alors, je suis de nature assez pessimiste quant à mes pronostics. Donc, je me dis que si demain le PSG décide de jouer contre ses idées de jeu et plus en transition avec Kolo Muani titulaire, là, je me dis qu'on peut peut-être avoir plus de soucis. Maintenant, si le PSG veut vraiment garder le ballon, quitte à être stérile, etc., et que Luis Enrique veut mourir avec ses idées, je pense qu'il y a moyen que le Bayern gagne et même fasse une très très grosse victoire. Je pense que ça peut partir dans tous les sens et ça ne m'étonnerait pas demain qu'on ait fini à 2-2 comme si le Bayern gagne 4-0 demain, je ne suis pas étonné personnellement.
Merci beaucoup Louis, on va te souhaiter une très très bonne soirée. Merci à toi d'être dans Cop Paris. Très bon match demain. Messieurs, le pronostic rapidement.
3-2 PSG.
3-2 PSG.
3-1 Bayern.
Eh ben, c'est noté.
Plutôt Luis Enrique qui m'aurait dit malheureusement.
Bon, on a un petit peu de tout. On va tout de suite passer à l'Omnisport. C'est tout de suite avec Maxime Montiot qui vous résume les résultats de vos clubs franciliens du week-end.
Le derby francilien en top 14 a tourné à l'avantage du Stade français Paris. Les soldats roses qui n'avaient plus battu le Racing à domicile depuis 2017 se sont imposés 40 à 24. Avec 6 essais, le club parisien a retrouvé quelques fulgurances de la saison dernière. Privés de leurs internationaux Ficou, Le Garec ou encore Tuisova, les franciliens ont réagi trop tard en fin de match. Après 10 journées de top 14, le Stade français Paris remonte à la 10e place. Le Racing est lui 8e. Jeudi dernier, le Paris Basket a poursuivi son incroyable série. 9e victoire consécutive pour le club de la capitale, la 7e en Euroleague où il continue de faire tomber les cadors européens. Après Barcelone ou Kaunas, c'est l'Anadolu Efes, vainqueur de la compétition en 2021 et 2022, qui s'est incliné sur son parquet. Victoire 93-84 avec un TJ Short en feu, auteur de 21 points et 10 passes décisives. Après 11 journées, Paris est 4e du classement. Un mot de handball pour terminer avec la 11e victoire d'affilée du PSG en championnat. Cette fois-ci, la victime s'appelle Chambéry. Privé de Prandi, Steins ou Palika, les Parisiens se sont appuyés sur un Ferran Solé des grands soirs, auteur de 12 buts. Score final 37-31 pour le PSG, premier du classement avec 2 points d'avance sur Nantes.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Franck Dessous et Romain Alexandre.
Merci Julien.
Très bon
merci
match demain soir. On va croiser les doigts.
On croise les doigts.
Merci également à Jordan Lesueur à l'édition. Je vous rappelle que Cop Paris est disponible en replay et en podcast sur l'appli RMC BFM Play, sur le site web de BFM Paris et sur le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous. Très bon match demain soir et à lundi prochain.